Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, c'est le retour de votre émission littéraire par le bout de la lorgnette avec nos chroniqueuses et chroniqueurs bronzés comme des petits Suisses. Salut Héloïse.
Salut tout le monde.
Tu t'es bien reposé cet été, en forme?
Ouais, super.
Nico, tu interviens quand je te donne la parole, s'il te plaît. Hein?
Non, je ne me suis pas reposée, j'ai bien travaillé.
C'est... Voilà. C'est exactement la même situation pour Valérie qui n'a pas chômé cet été. Vous l'avez entendu sur le plateau des aériennes avec cette formidable introduction pour le groupe jamaïcain Inya de Yard où elle leur a dit bonjour avec un Yémen. Salut Valérie.
Salut. Yé Ludo.
Et toi tu es...
Rastafari.
Ouais. C'était ça.
Toi tu es partie sur les traces de Popo en Bretagne.
C'est ça, oui. J'étais sur les traces de Pauline découvrir la Bretagne.
Mais c'était bien.
Merveilleux.
C'était fabuleux. D'ailleurs, si un jour j'ai mon permis de séjour pour aller là-bas, j'y retournerai plus longtemps.
Pourquoi la Bretagne est indépendante?
Ben, tu savais pas?
Non.
Ah ben.
Ils me l'ont pas dit, je suis breton.
et comme tu es une folle, tu repars demain en vacances?
C'est parce que j'ai pas trop eu le temps de me reposer en fait.
D'accord, c'est comme Nico qui s'est pas trop reposé.
Si, ça va, je suis super forme.
Si, tu es parti en Espagne quand même un peu.
Ouais,
manger des tapas.
Ouais.
D'ailleurs, tu nous en as préparé.
Tapas locas, ouais, super bonne.
Des cookies aux olives.
Merci beaucoup. Par contre, j'ai trouvé un petit resto qui fait des tapas grande cuisine, extraordinaire. Je vous donnerai l'adresse, c'était fabuleux.
Mais tu
jamais mangé des trucs pareils.
Tu aurais pu en ramener.
Tu vas plutôt nous refaire des tapas que tu as goûté là-bas. Parce que ça va être un peu compliqué pour nous d'y aller.
C'est vrai?
Ouais.
Ouais. Bon, alors il faut que tu me trouves un poulain parce que j'ai mangé des mini burgers au poulain.
Oh.
Ouais. C'est horrible. J'en ai à côté de chez moi.
C'est super bon.
Ah, mais pour préparer un poulain, je sais pas, ça va être dur à trancher.
Petit, viens là.
Je sais pas. Popo est là, salut Popo.
Salut tout le monde.
Alors toi, tu as failli partir en vacances, mais ta voiture en a décidé autrement.
Eh oui, il y a eu des petits soucis et du coup, j'ai fait la Lozère à pied et en train. Ouh.
Ouais. C'est moche. Hein.
Merveilleux.
Tu connais Saint-Laurent-les-Bains, pas Saint-Laurent-les-Bains,
la Bastide Saint-Laurent par cœur. Ah oui, à fond, oui. Oui.
Alors justement, Popo, après avoir présenté lors de la dernière saison des livres sur la Shoah, les génocides, les différentes souffrances humaines, tu nous as proposé pour cette première émission de la rentrée 2017 de parler du bien-être. Je comprends pas vraiment pourquoi, mais allons-y, parlons du bien-être avec Héloïse qui va commencer.
Oui, donc bien-être, développement personnel, c'est des livres qui sont très à la mode en ce moment, qui font partie des meilleures ventes, les livres de développement personnel. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant. Merci Pauline d'avoir proposé ce sujet. Pourquoi? Peut-être que les gens sont pas bien en ce moment, peut-être qu'ils ont besoin de guides, ils ont besoin de spiritualité, je sais pas, dans ces temps troublés.
Ils se recherchent, quoi.
Voilà, exactement.
Se cherchent et se recherchent.
Mmh, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé à force de chercher?
Alors, moi, je suis tombée sur deux livres que j'ai bien aimés.
C'est pas comme si tu pouvais te les choisir aussi.
J'ai eu de la chance.
Ah ouais, elle est magnifique, le bouquin.
Je vais vous parler du premier livre que j'ai lu. C'est le livre du Hugge. Donc, ça s'écrit
Hugge.
H-Y-G-G-E, mais ça se prononce Hugge, et c'est du danois.
Hugge, même.
Voilà. Donc, Hugge. Ouais.
Hugge. Dans les forêts danoises.
L'auteur de ce livre est un scientifique très sérieux. Il est président de l'Institut de la recherche sur le bonheur basé à Copenhague, au Danemark. Et ça vous dit sans doute quelque chose parce que chaque année, on nous baratine un peu sur ce fameux classement des peuples les plus heureux dans le monde, etc. Et souvent, les Danois sont dans le top 3 de ce classement. Et donc Mike Wigging, qui est l'auteur, il a sa petite explication et il nous explique en fait dans ce livre, non pas une méthode, mais une véritable manière de vivre, de prendre le quotidien, qui est pratiquée naturellement en fait par tous les Danois. Le mot hugge, c'est un mot qui existe depuis des siècles chez eux, c'est un verbe même qui se conjugue. Il en résulte d'ailleurs...
Je hugge, tu hugge, il hugge.
Nous huggons.
de Hougon dans la forêt danoise.
Exactement.
Wow. Vas-y, au passé simple, voir.
J'ai hugué. Ouais.
Ils huguent.
Ouais. Aurait-il fallu que tu le hugues?
Donc, il en résulte des mots assez drôles et cocasses, comme le hugeboxer, qui est le pantalon qu'on ne mettrait jamais en public, mais dans lequel on se sent bien et qu'on met chez soi. Voilà. Et donc, ce mot est décliné.
Le panty, quoi.
À plusieurs.
Ouais, j'aurais dit le jogging, non?
Chacun son petit plaisir chez soi de pantalon.
Il y avait qui fait du ouga-bouga, non?
Exactement. Je ne serai pas perturbée par tout ce que tu diras, Nico. Je suis décidée.
Et moi, je ne fais plus de calembours la saison 2017-2018.
Ouais. Et moi, je vais commencer à couper des micros sur cette nouvelle saison.
Donc tout ça pour vous dire que même si c'est la prochaine mode chez nous, le hugue, c'est vraiment pour eux, c'est leur quotidien depuis des générations. Et c'est assez sérieux. Donc qu'est-ce que c'est le hugue? En résumé, c'est quelque chose d'assez simple. C'est une lumière chaleureuse, des bougies, beaucoup de bougies. Les Danois sont les plus grands consommateurs au monde de bougies. Il en résulte parfois des accidents d'ailleurs et quelques problèmes de santé. Après, c'est aussi être avec les gens qu'on aime, profiter de leur présence, de leur conversation, ne pas monopoliser la parole quand on est avec eux, être à l'écoute, boire et manger en présence de ces personnes, et c'est encore mieux quand on prépare le repas tous ensemble, entre amis. Se créer chez soi un espace hugueux avec plaid, peau de bête, trucs chauds, des grosses chaussettes, un cocooning chaleureux. On peut s'y poser en observant la tempête dehors ou en lisant un livre avec son thé préféré. Donc voilà, toute cette philosophie de vie est somme toute assez simple et pleine de bon sens, j'ai envie de dire. Ça découle aussi du fait qu'au Danemark, il fait nuit pas mal de temps dans l'année. Il fait moche, il pleut beaucoup, il neige beaucoup. Et donc, toute cette philosophie de vie un peu cocooning, le besoin de se créer quelque chose de chaleureux, ça découle en partie du temps. Et j'ai l'impression que nous, en Lozère, on pratique un peu le hugue aussi avec la neige, avec la nuit qui tombe tôt, etc. Avec les cheminées, etc.
Le plaid animal.
Voilà. Après, il faut savoir aussi que les Danois ont des horaires de travail assez restreints. Ils finissent le travail très tôt. Ils ont le revenu universel. Donc, ils ont plus de temps aussi pour se consacrer à eux-mêmes.
C'était pas dans la campagne des socialistes, hein, le revenu universel?
Si, Benoît Hamon.
Oui, c'est ça. Le quoi, le hug ou le plaid animal?
Le revenu universel, oui. C'est un exemple dans le monde de revenu universel qui marche, le Danemark. Voilà, oui,
comme quoi,
tout
ça
à fait.
Peut marcher, quoi.
Donc chacun de ces points est détaillé dans le livre. Et le livre fourmille de conseils, de recettes. C'est pas un livre qui se la pète, il est très agréable à lire. Et même si ça mange pas de pain, ça m'a fait du bien. En fait, c'est comme cette philosophie, c'est très cocooning, c'est chouette. Et même si c'est la prochaine mode, il y a plein de points à adopter, à garder, et qu'on fait déjà, je pense.
Concrètement, ça présente quoi? Parce qu'il est assez gros, ça présente quoi? Des situations
Voilà, des exemples, des détails. Il y a aussi pas mal d'études, de graphiques.
Comment s'habiller comme un Danois, par exemple. Les écharpes, un truc super épais, du noir, plusieurs couches.
Du noir, c'est pas très gay, hein.
Ouais, mais c'est hitch.
C'est un livre assez sociologique aussi, de par le métier de l'auteur. C'est vraiment intéressant. Quoi. Moi, je ne connaissais pas du tout le Danemark et les Danois. J'y suis jamais allée. Et c'est chouette. Ça donne envie
d'aller
découvrir
chez
ça,
eux.
Ouais, carrément.
Qui est déjà allé au Danemark, à part moi?
Toi?
Moi.
Et alors,
t'as fougué?
Non, en fait, j'ai juste pris un avion. J'étais à l'arrêt pour 2 heures avant de repartir. Donc, j'ai pas vraiment vu.
T'as pas eu le temps de prendre un bled, un thé, de te mettre
baladé,
à la fenêtre. Non, je me suis
baladé, j'ai atterri dans le quartier chinois, donc ça n'avait aucun rapport avec le Danemark.
C'est le seul truc sordide
que j'ai vu. Ok, donc.
Ça se pratique plutôt à l'intérieur et chez soi.
Oui, alors le hugue se pratique principalement chez soi, effectivement. Ouais. Et on préfère recevoir les amis chez soi que se retrouver dans un bar.
Mais je trouve justement dommage, que dans les bars aujourd'hui, en baladant un peu cette année, je trouve qu'on revient vers des endroits assez cocooning dans les bars. On fait très attention aux décos, façon dont les gens sont assis, à des coins un peu plus chaleureux. Les tendances quand même vont beaucoup vers ça, quoi.
C'est pour pas voir les gens alcoolisés comme Valérie quand elle sort
dans les bars. Extérieur.
On cache un peu.
Bougueux extérieur.
Comme moi quand je regarde des gens alcoolisés,
oui,
c'est ça.
Oui, voilà, d'accord. C'est ça. Pour pas que tu sois choqué.
Bien sûr.
Ouais, ça a l'air intéressant,
voilà,
ce livre.
C'est chouette.
Bon, il y a plein de dessins, plein de photos,
oui,
plein
voilà,
de schémas.
C'est illustré. C'est illustré. Donc ça s'appelle, voilà, le livre du Hugues de Mike Wigging et c'est chez First Edition. Et
oui,
vous
le
allez
livre
en
assez beau
parler,
en plus. Hein.
Je pense.
C'est un beau livre. C'est un beau livre.
Ouais.
C'est ça. Mmh. Allez, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Nico, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui?
Alors, j'ai appris que l'émission allait avoir lieu il y a 5 minutes.
D'accord,
désolé,
humain,
mais
il y a 10 minutes.
Vous me refaites, oui, 10 minutes.
10 minutes.
Vous ne le refaites pas, s'il vous plaît.
Alors, on va te laisser travailler et tu passeras en dernier, alors. On va changer. Valérie, tu as deux livres?
Oui.
À toi la parole.
Mais si tu veux intervenir, Nicolas, mais surtout, je ne veux pas que tu te retiennes. Si tu oses interrompre ma chronique,
ouais,
à tes risques et périls.
Non, on n'interrompt pas les chroniques.
À tes risques et périls. Non.
Que par des questions.
Je vais vous suggérer quelque chose qu'a su... Mais je sais pas déjà tout. Vous suggérer quelque chose qu'Idriss Aberkane vient de suggérer, c'est libérer votre cerveau. Ah, le cerveau, ce grand inconnu pour la plupart des gens autour de cette table. Cette machine complexe et riche qui reste mystérieuse à nos yeux. Des lectures sérieuses qu'on a l'habitude de lire quand on est étudiant, ça va 5 minutes. Alors que vivent les lectures récréatives de l'été. Et évidemment, c'est la rentrée, donc on se remet dans le sérieux. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Une petite bio de l'auteur qui a un gros bagage universitaire. Il est prof dans les grandes écoles, il est chercheur dans d'autres, conseiller auprès des gouvernements, des multinationales. Il est conférencier. 31 ans, le gars. Alors, il est loin d'être désœuvré. Il a une expertise dans plein de domaines, dont celui qui va nous occuper aujourd'hui, les neurosciences. Cachez votre enthousiasme que je ne saurais percevoir.
Mais c'est génial, moi, ça me parle.
Ah, mais c'est fabuleux, hein. Alors, moi, je ne suis pas scientifique. Je n'ai pas la fibre scientifique. Ou alors, elle est peut-être très bien planquée dans les méandres de Monsieur Mon Cerveau. Alors, au départ, on peut penser que c'est un livre de vulgarisation de neurosciences. Ou un livre qui pourrait être accessible et intelligible à tout néophyte comme moi. Alors, se plonger dans le livre, c'est une chose. Comprendre, assimiler et y prendre du plaisir en est une autre. Alors, me direz-vous, ce livre, un peu fabuleux, mais un peu terrible à la fois. Fabuleux parce qu'il nous rappelle que notre cerveau est un élément riche, intelligent, autonome, complexe, aux capacités infinies et aux prouesses extraordinaires. Terrible parce qu'il nous pose en face de nous tous les dysfonctionnements de notre société, notamment le système éducatif et le système politique, entre autres. Me diriez-vous, mais quel est le lien entre l'école, la politique et les neurosciences? J'y arrive, un peu moins d'enthousiasme, mes amis. Comment voulez-vous être heureux quand, dès la naissance, l'appareil sociétal marque son emprise pour vous brider, vous formater et vous enfermer dans des petites prisons carrées et grises? Bim, le livre attaque. C'est une réussite dans le sens où le cerveau est abordé sous tous ses aspects, de la physiologie, en passant par la métaphysique, la psychologie, la sociologie et même la philosophie. Donc l'auteur, lui, il emploie des métaphores à tire-larigot. Alors ça permet des fois de comprendre ce qu'il veut dire, des fois ça ne permet pas de comprendre ce qu'il veut dire, tellement les métaphores sont redondantes. Mais malgré tout, cette lecture est un plaisir. Ah non, j'avais marqué « n'est pas un plaisir ». Non, en fait, la lecture est agréable, mais parfois, c'est un peu compliqué. Donc
il faut qu'elle le vende, le bouquin aussi. Hein.
Oui, il n'y a pas de souci. Parfois, c'est un peu compliqué, donc il faut s'arrêter, il faut laisser les petites bribes du cerveau qui fonctionnent s'aérer et laisser sortir la vapeur qui s'est accumulée dans son crâne et relire certains passages un peu trop techniques et un peu trop compliqués à mon goût.
C'est pas vraiment un livre d'été. Hein.
Non, mais peut-être n'utilisais-je pas jusqu'à présent mon cerveau comme il faut.
C'est peut-être ça.
Alors si certains vont lire ce livre pour briller en société, d'autres vont en profiter de ce livre pour descendre la société en flèche. Car il est coutume de dénigrer certaines vérités géniales et dérangeantes qu'ont fait l'éducation et la politique. Et puis d'autres, par curiosité, vont lire ce livre juste pour en savoir un peu plus et pouvoir se poser les bons mots sur des évidences. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce livre ? En fait, la comparaison entre l'école et gaver des canards. Comment voulez-vous comparer l'école et un foie de canard malade? Eh bien, notre cerveau humain, s'il est malade, eh bien, il va devenir bridé, voire névrosé. Est-ce que tous nos désagréments, nos malaises, le long de notre existence, ne sont pas juste le fruit de notre cerveau malade, déviant ou déficient? Ou est-ce que justement, est-ce l'expression d'un cerveau rebelle, étriqué au carcan et imposé de notre société?
On a perdu la moitié des auditeurs, là.
C'est vrai, tu crois? C'est chiant?
Ouais, non.
C'est chiant. Eh bien, alors, vous l'aurez compris. Pas non plus. Vous l'aurez compris, mes chers amis.
Non, on n'a rien compris.
Ce n'est pas un recueil pour booster ses performances dans un but de plus, avoir plus de QI, être plus heureux. Non, c'est juste un plaidoyer pour être libre dans notre ensemble. Alors, libérez votre cerveau, il ne demande que ça.
D'accord. Voilà. Et oh, est-ce
quelle
que...
belle fin, Valérie.
C'est pas, hein. T'as vu, ouais. Quand t'as dit que c'était bravo. Chiant, bim, on était sur
belle
la conclusion.
Ouais.
C'est
beau, hein.
Attends, je vais poser mais la question coup... que Louise veut poser. Pourquoi t'as des pompons alors... dans ton livre?
Comme...
c'est quand même la question importante.
Comme le livre était un peu pomponneux à lire, en fait, j'ai mis des marque-pages à pompons qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Je trouvais ça tout choupi. Et ça égaye un peu le livre parce qu'il est quand même relativement gris.
On va prendre une photo, on va l'envoyer à l'auteur, il va halluciner.
Je suis sûre qu'il va adorer parce qu'il va trouver que je libère mon esprit. Ouais. Voilà, le livre est gros. Il y a quelques dessins un peu zarbi gris. Sauf au milieu, il y a une BD qui reprend toutes ces métaphores tout en couleur.
Mais voilà, j'ai lu que la BD en fait.
Mais bien sûr, j'ai lu que la BD. Je ne crois pas que j'allais lire tout. J'ai mis les pompons au hasard, c'était trop joli. Non, c'est hyper intéressant. Parce qu'il essaye d'expliquer simplement les choses, mais il y a tellement de choses à expliquer.
Mais il donne des conseils.
En fait, c'est son point de vue en fait qu'il expose. Par moment, on a même l'impression qu'il veut imposer son point de vue. Donc là, c'est un peu plus dérangeant. Mais globalement, il dit des choses assez coup de poing, assez. Ouais, c'est.
Mais est-ce que ça a pu t'aider, comme l'indique le titre, à libérer ton cerveau?
Je pense que ça peut si on garde le livre 3-4 mois et qu'on prend vraiment le temps de le lire.
Ouvert.
D'accord.
Là, je t'avouerai, voilà, je l'ai lu pour. Enfin, je ne l'ai pas fini de toute façon. Entre
la BD et la quatrième de couve, c'est compliqué pour vraiment. Tu en avais entendu parler, toi, Nico?
Oui, moi je l'ai lu.
Bah, mais tu l'as lu
en partie. Je l'ai acheté en fait parce que ça me. Non, mais parce que j'ai toujours été assez passionné.
Dans
par
un moment de folie.
C'est ça. Par tu veux des bonbons pour le décorer.
Non, mais c'est ma formation à la base, donc ça m'a toujours intéressé, ça. Et du coup, oui, je l'ai acheté. Ça m'a intéressé de le lire. Uh-huh. Moi, effectivement, je partage beaucoup de tout ce que tu as dit.
N'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il a dit. Hein,
c'est pas pour les profanes. C'est un bouquin. Il faut avoir envie de lire ça. Bon, une fois qu'on a fait ce choix-là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est il a des partis pris très précis. Comme quoi, on est assez manipulé et globalement, on n'est pas assez éduqué. Enfin, on n'éduque pas assez bien notre cerveau et que c'est un peu... pour faire simple, toi, tu parlais d'éducation, c'est un peu la grande loterie, quoi. C'est-à-dire, on est dans un milieu social qui nous permet de nous ouvrir, et ben, on a tout gagné. On est dans un milieu défavorisé, on a tout perdu, quoi. Après, il y a des exceptions, des gens qui arrivent à s'en sortir. Mais globalement, l'éveil intellectuel global, puis corporel qui vont avec le cerveau, il n'est pas hyper bien fait, alors qu'on sait que depuis des décennies, depuis les années 70, on connaît tout ça. Le rythme de l'éveil de l'enfant, toutes les phases, etc. Bon, on sait tout ça, on sait comment fonctionne en partie le cerveau, pas tout. Mais on n'en tient pas compte dans nos choix de vie et dans les choix politiques qui vont avec. Voilà. Et ça, c'est quand même aberrant. Par exemple, on était passé sur la semaine de 4 jours et demi. On ne fait pas d'analyse sur ce que ça a produit chez les enfants en termes d'apprentissage, en termes de rythme de vie, en termes... Chacun y va de son plaidoyer en disant « Ah, moi, les enfants étaient super crevés. Moi, les enfants, c'était génial. Ils ont fait plein de trucs. Ils ont découvert plein d'univers. Socialement, ça a été très riche pour eux, etc. » Personne n'a fait une analyse globale de cette mesure. On l'a supprimé, voilà. On a proposé que chacun fasse un peu ce qu'il veut, donc ça revient à peu près à ça. Et c'est ultra dommageable. C'est-à-dire, on n'arrête pas de faire des va-et-vient, mais globalement, on n'arrive pas à faire, à avoir une analyse générale de qu'est-ce qu'il faut à l'homme pour que tout au long de sa vie puisse s'éveiller. Voilà, s'éveiller culturellement, intellectuellement, socialement.
Et ce livre répond à ces questions.
Et enfin,
du point de vue de l'auteur,
il pose ces questions. Il amène quelques réponses. Mmh. Il amène quelques réponses, des réponses qui sont plus personnelles, de dire, pour te libérer aujourd'hui, il faut que tu lises déjà. Donc se libérer des
médias. Son livre de préférence.
Oui. Voilà.
Son livre de préférence, mais non, mais tu peux tout lire. Il faut lire de la poésie, il faut lire. des romans,
des magazines, des BD,
des magazines, des journaux, se faire notre propre avis. Et je trouve que ça amène quand même à cette réflexion-là, globalement, de se grandir par une démarche qui est personnelle.
Enfin, c'est dommage, parce que si on lit ce livre, on est déjà dans une démarche de lecture. Il va pas aider ceux qui ne lisent pas.
Oui, mais il ouvre aussi à réfléchir à des choses, en fait. C'est pas.
Et après, il a été très médiatisé. Il est passé beaucoup à la télé. Etc.
Jamais vu, moi.
Il a un nouveau livre là qui sort au mois d'octobre.
Je connais pas.
Je te le commande, Valérie.
Je vais essayer de terminer celui-là. Je vais revenir.
Moi, j'en recommande pour les gens qui ont envie de s'intéresser à ce qui se passe dans leur propre cerveau et aux stratégies qu'on peut mettre en place personnelles. Hein. C'est jamais fini. Et voilà.
Après, il propose des petits exercices rigolos sur la mémoire pour les chiffres, tout ça. J'essaye, et c'est pas mal.
Ok, merci. C'est quelle maison d'édition ? Robert Laffont.
Robert Laffont, ouais.
D'accord. Idriss
Aberkane.
Idriss Aberkane.
Et le titre ?
Libérez votre cerveau.
Libérez votre cerveau.
C'est ça. Je vais piquer ta place, Popo, parce qu'on parlait d'éducation, d'ouverture d'esprit et tout ce qui va avec pour nos enfants. Donc, ça colle un peu avec mon livre qui s'intitule « Calme et attentif comme une grenouille ». Ton guide de sérénité, un livre qui contient 100 pages pour les enfants de 5 à 10 ans avec un CD en plus. Donc c'est un livre en fait pour travailler avec ses enfants ou les laisser travailler seuls s'ils sont un peu plus grands. Travailler ou jouer, car c'est extrêmement ludique, sur leur attention, leur respiration, apprendre à se concentrer, à observer, à travailler sa mémoire, savoir s'arrêter à des moments, sentir, toucher. Bref, en fait, tout l'inverse de ce qui se passe actuellement avec la multiplication des écrans présents dans les maisons qui causent des dommages qui sont quand même insoupçonnés pour nos enfants. Donc du coup, dans ce livre, il y a des histoires, des coloriages, des chansons, des exercices de bricolage, des autocollants à placer, des jeux à partager, du yoga. Bref, beaucoup de jeux différents pour amener finalement au même objectif, apprendre aux enfants à être attentifs à eux et aux autres. Alors c'est un livre d'une auteure qui s'appelle Eline Snell, qui est repris par des professionnels de la petite enfance. Eline Snell, auteure hollandaise, je parle du pays, pas de l'homme politique, qui est célèbre depuis qu'elle a réussi à convaincre son gouvernement d'enseigner la méditation à l'école. Et grâce à elle, aujourd'hui, aux Pays-Bas, tous les professeurs des établissements primaires de ce pays bénéficient d'une formation gratuite à la méditation des enfants qui est financée par l'État. Elle a sorti ce livre en 2002 et qui est devenu un best-seller, traduit dans plusieurs langues, dans 20 pays. Elle raconte en 2007, alors qu'elle formait des directeurs d'école hollandais à la gestion du stress et à la méditation, que ces derniers étaient surpris un peu des résultats pour eux-mêmes et lui suggérèrent d'enseigner cette discipline à des enfants. Et elle nous dit « Je leur ai demandé comment les professeurs de leurs établissements s'y prenaient pour que les enfants se concentrent. » Et ils me répondirent qu'ils disaient aux enfants de se concentrer sans savoir comment leur enseigner à le faire. Donc ce fut un déclic pour elle. Et en 2008, elle entamait un programme pilote dans une vingtaine d'écoles primaires et secondaires. Et donc au vu de son succès, ce programme est dans toutes les écoles maintenant au niveau national. Et au-delà de la... Donc vous parlez de la multiplication des écrans qui énervent nos enfants. On ne se rend pas bien compte parfois en tant qu'adulte que les enfants finalement sont autant stressés que nous. On se dit, ils sont jeunes, ils s'amusent beaucoup, ils vont à l'école, ils n'ont pas de raison d'être stressés par rapport à nous, à tout ce qu'on doit supporter. Et non, c'est complètement fou. Ils sont aussi stressés que nous. Il y en a qui n'arrivent pas à s'endormir, il y en a qui sont aussi stressés que nous, qui sont inquiets. Et finalement, la méditation aide à surmonter ces difficultés. On se rend compte en étudiant le sujet pourquoi en France, on n'essaye pas d'apporter, par de la méditation, des exercices d'attention, de respiration, plus de sérénité aux tout-petits.
C'est du yoga,
Et grâce à ce livre, justement, on va y arriver sans effort, parce que c'est extrêmement ludique, et l'enfant s'amuse avec. Donc je le recommande vraiment fortement à tous, et même au corps professoral, enseignant, aux enseignants. Il faudrait vraiment, quand on lit ça et qu'on s'intéresse au sujet, on se dit, mais pourquoi en France, on ne fait pas ça aussi aux tout-petits? On n'apprend pas aux professeurs à les aider à se concentrer, l'attention. Il faut savoir comment les amener à ça, Valérie.
Moi, je dis, moi, mes enfants, à l'école, tous les matins, ils font de la méditation avant d'attaquer...
Non, ça s'appelle des prières, cours. Valérie.
Non, c'est pas ça. C'est de la méditation.
Il me semble que c'est basé sur ce livre.
Ouais, ils font vraiment de la méditation tous les matins.
C'est pas la seule. Il y a une auteure française qui s'appelle... parce que je me suis un peu...
Il y a des initiatives, de toute façon, en France.
Il y a Geneviève Manon qui proposait des formations de relaxation pour enfants vers 93, qui a écrit également de nouveaux ouvrages sur le sujet, dont... Apprivoise-moi. Alors, c'est pas le livre qu'Éric t'a acheté, Valérie. C'est un livre pour enfants, pas pour adultes, qui date des années 80-90. Vraiment, je le conseille à tous les parents. Et c'est vrai que quand ils ont 5 ans, s'ils ont 7 ans, on peut jouer avec eux. Et après, même tout seul, ils peuvent travailler sur les exercices. Il y a des petites histoires.
Il y a plein de tentatives en France, hein, de gens qui font ça. Personnellement, c'est pas inscrit dans le cadre de l'éducation nationale, mais ils le font.
Mais ça le devrait pour apprendre aux oui, enfants mais, dès la maternelle.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires, il y a eu dans certaines villes. Des propositions, et notamment à Mende, il y a eu de la sophrologie qui était proposée, il y a eu du yoga, il y a eu des tas de choses comme ça qui se faisaient dans le temps périscolaire. Et là, encore une fois, on n'a pas évalué tout ça. Mmh. Et c'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations qui étaient très intéressantes, qu'on pouvait intégrer dans le cadre du temps de l'enfant. Mmh. Et ça s'est pas fait. Encore un échec, je trouve hyper dommage, alors qu'il y a des pays qui le font déjà depuis plus de 10 ans.
Mais comme la gym, voilà, dès le matin pour les enfants, pour il faudrait faire de la gym, un exercice de concentration, et après on commence la journée. Je pense que ce serait extrêmement bénéfique pour eux. Ça devrait être obligatoire dans un cursus de maternelle,
pour les enfants,
de
même
primaire.
Pour les adultes, quoi, avant de commencer à bosser.
Oui, oui. Bon, après, les adultes, c'est oui, c'est chacun son choix. On fait ce qu'on veut. C'est pas
non, mais dans
chose
les entreprises, il y en a qui le mettent en œuvre. Hein. Oui.
Moi, je suis pas la pro de la petite enfance, mais je me dis en tant que parent, mes enfants toute la journée. Ils sont au calme sur leur chaise, ils font un peu d'éducation physique en classe. Mais est-ce que justement notre rôle à nous, parents, c'est pas plutôt de leur faire prendre l'air, de les faire bouger? Enfin, des enfants, est-ce qu'il faut toujours les canaliser? Moi, au contraire, j'ai l'impression qu'il faut les laisser se lâcher, envoyer des watts, enfin être...
Il faut les deux, Valérie. Ouais,
mais c'est un équilibre. Oui,
mais toute la journée, ils l'ont, cet équilibre. Ils sont assis, ils sont concentrés.
Non, quand t'es dans la course, t'es 90...
La méditation, c'est pas de la concentration. Hein.
Oui, non, mais ça, le matin, ça leur fait du bien, c'est évident. Bah ouais. Mais après, toute la journée, ils sont concentrés. Moi, j'ai l'impression que le soir, il faut les... Enfin, voilà, il faut les mettre sur le trampoline pendant une heure.
Oui, mais pas que. Avec tes enfants, Ludo, ou pas, ouais. Certains exercices?
J'ai essayé, mais je suis en dessous des 5 ans, donc ça a été un peu compliqué pour la compréhension. Les histoires, ça allait, mais
avec
je suis persuadé que.
Avec un
après,
public captif, tu leur fais faire n'importe quoi, les enfants. C'est à partir du moment où c'est un jeu, tu peux. Et puis en même temps, leur apprendre à respirer, c'est essentiel.
C'est essentiel.
La respiration, c'est ce qui fait tout dans notre corps.
Oui, c'est après, apprendre à se connaître, à connaître les autres.
Disait, entre le yoga et la gym, la différence, c'est la respiration. Voilà, parce que si tu fais du yoga sans faire de respiration, en fait, tu fais de la gym, tu fais des étirements, tu fais des trucs comme ça. Mais c'est l'essentiel, c'est ça.
Alors, la course sans lait, ça reste que de la course, Pauline.
La transition.
Sinon, c'est la transition. Le livre de l'émission.
Ça n'a rien à voir.
Le livre que tout le monde doit avoir de cette émission.
Elle l'a réclamé.
Elle l'a réclamé. Elle a lu.
Ouais, mais elle a fait les exercices, alors on veut les voir. En direct, vous allez avoir.
Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après.
Non, on va commencer par un plus soft.
D'accord,
déjà.
Allons-y. Ah,
donc, je vais commencer par 50 exercices de confiance en soi par Laurence Bénatar chez Erol. Alors déjà, je vais vous parler un peu de Laurence Bénatar. Alors, ce que j'ai trouvé sur son site web, hein, donc elle est coach pour femmes depuis 15 ans pour la Womanity Academy. Donc voilà, son credo, et là je cite, c'est en finir pour les femmes, en finir avec une vie qui ne correspond pas à votre potentiel, pour aller vers une vie riche de sens, de liberté, d'autonomie et d'abondance. Voilà, donc... Dans notre livre, elle ne s'adresse pas qu'aux femmes, elle s'adresse aux hommes, aux femmes. Et alors moi, bon, c'est vraiment des exercices. C'est-à-dire que j'ai pris un stylo, une feuille, et puis j'ai fait les petits exercices qu'on me donnait. J'étais super sérieuse, tout ça. Et pour voir ce que ça donnait, en plus, je me suis dit, ça va être marrant, ça va faire un peu comme les tests des revues. Je trouve ça
de femmes
assez
actuelles.
Rigolo. Voilà. Et donc, je vais vous faire un petit test, par exemple. Est-ce que vous savez distinguer les propositions dans celles que je vais vous faire, qui sont des critiques constructives? Attention.
Allez,
tu devrais aller chez le coiffeur, cela mettrait ton regard en valeur. Constructif.
Oui, je pense. Oui. Constructif.
Tout à fait. Tu ne ressembles à rien avec cette tenue. Tu comptes vraiment aller travailler comme ça?
Non constructif.
C'est pas constructif.
Voilà un peu le genre d'exercice qu'elle
tu
nous propose.
Tu dis ça, ta femme
Non, jamais.
Ludo
Non, je me fais défoncer, sinon.
Ah ben.
C'est très bien, c'est ce qu'elle nous apprend
clair,
dans ce bouquin.
Tu dis jamais à une femme qu'elle est mal habillée, quoi. Ouais. C'est un genre de truc que tu ne te permets pas.
Donc
c'est
voilà.
C'est une hypocrisie totale, mais c'est pas grave.
C'est ce genre d'exercice.
Parce qu'elle s'habillait bien.
Ouais, c'est un peu nul comme exercice. Ouais.
C'était pas terrible.
C'est pour les adolescents, peut-être.
Non, c'est pour les adultes. Voilà, donc... Finalement, je me suis dit, bon, ça va être rigolo. Bon, finalement, pas tant que ça.
Tu as fait les 50 tests?
J'ai tout fait. Oh là là. J'ai tout fait très sérieusement, en me disant, je vais bien arriver quelque part.
Et à la fin, vous êtes, ça ne dit pas plus de réponses?
Non, au début déjà, on sait si on est ou si on n'est pas.
D'accord. Ouais.
Mince. Alors moi, elle m'a dit, je aime le dire derrière, c'est-à-dire je fais un petit test, je ne manque pas de confiance en moi, mais je ne déborde pas de confiance non plus. Mmh. Voilà.
Pas de risque.
Eh ben, j'ai mes moments. Tu vas me les refaire les 50 tests.
Il faut qu'à la fin de l'année, c'est changé.
Ouais. Donc, mais oui, ça, c'est malgré positif. Les 57 tests, mmh. ça n'a pas changé. Et puis bon, des fois, ces trucs, je les ai trouvés carrément limites. À un moment, et comme exercice que je n'ai pas fait. Elle nous demande d'écrire une lettre à nos parents. Oui, oui, bah, tu vas voir l'exercice. Hein. D'écrire une lettre à nos parents en disant tout ce qu'on leur reproche, en citant des exemples précis. Donc voilà, si j'avais vraiment fait le travail, je pense que j'aurais bousillé ma relation avec mes parents. Je pense que j'aurais toujours du mal à dire
surtout
non.
Surtout si tu as du passif du genre « Non, papa,
par
j'ai
contre,
jamais aimé quand
tu... » tous les gens quand ils me font des commentaires sur mes phrases. Non, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, résultat pas très concluant, pas super efficace et même pas très drôle, en fait.
Allez, on n'en parle plus.
Eh oui.
Fini, on va faire une pause musicale.
Bon, bah, du coup,
et
tu
on
le conseilles pas,
alors.
Non.
Mais c'est peut-être pour des gens qui ont vraiment pas confiance en eux et qui ont une vie de une vie pas très cool.
Rien
quoi.
Rien que d'acheter le livre, je pense que ça doit leur donner la confiance.
Je sais pas.
Non, mais ça sert à quoi, ces bouquins?
Bah, ça sert aux gens, je pense, qui savent pas, qui sont un peu perdus, je pense.
Mais non,
ouais,
mais
pour se rebooster.
Mais
y
a pas, ça manque de vrais conseils. Ouais, de...
ouais mais tu respectes.
Voilà,
si
parce que
si
je me dis que ça peut donner confiance,
perdu,
effectivement, rien que de lire des exercices de confiance. Ouais. Mais là, bon, on est pris pour presque.
Non, mais vidéos, c'est pour un public spécifique. C'est les gens qui écoutent RFM, qui regardent Cyril Hanouna, tu vois.
Oh là là.
Et après,
il faut lire.
On n'a pas le droit de dire ça.
Tu t'engages dans un truc, la Ludo.
Allez,
pas déraper comme ça.
Je retire. RFM passe pas les Beatles et nous on les passe. Quelle chanson, Héloïse, tu as choisi?
Norwegian Wood.
Allez, c'est parti. Tu disais, Valérie,
qu'est-ce que
tu proposais? Ouais. Bon, ben allez, tiens, on te donne la parole. Tu veux parler,
non,
tu parleras.
Je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'entendre ce que j'ai à dire.
Si, si,
non,
toujours.
Parce que mon dernier livre, et je pense que je l'ai accueilli avec bienveillance, il s'appelle « Petit cahier d'exercices de bienveillance envers soi-même ».
Eh bien, ça en fait des exercices. Hein,
bon Dieu, que c'est chiant. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Je ne suis pas faite du tout pour les livres de bien-être. Non, vraiment pas. Je pense que je suis déjà trop le bien-être à moi toute seule, sans en plus avoir besoin de le lire.
Tu rayonnes de bien-être-étude.
Mais je suis emplie de bien-être-étude. Je pense que, voilà, quand tu es heureux, quand ma foi, tout va bien, Et quand tu es optimiste et positif, tu n'as pas besoin de lire le cahier du bien-être. Maintenant, je me blais le temps d'attraper mes notes. Ça y est, j'ai mes notes, on va pouvoir reprendre. Non, alors c'est un tout petit livre, ça ressemble au cahier qu'on avait quand on était petit enfant, avec une marge et des gros cahiers et des gros carreaux. Ça a été un peu la mode, ça, il y a pas très longtemps. Alors, il est beaucoup moins réussi que le petit cahier de gribouillage et des éditions Winux. Hein. Il est un peu plus laid.
On peut le dire.
Il est rose, surtout. Donc, déjà, bim, tu sais que si t'es un homme, t'as pas le droit de le lire.
Oui, mais ça, c'est la théorie très, du
très
genre, tu vois.
C'est pas très, très bienveillant, les éditions Jouvence, d'avoir fait ça.
C'est un truc catholique, ça, Jouvence.
Ah, je ne sais pas. Moi, ça m'a fait penser à Jouvence de l'Abbé Souris. Donc, déjà, ça m'a bloqué.
Jouvence, oui, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de livres, qui fait que ça, des livres de développement personnel. C'est pas catho, c'est. Ésotérique, on va dire.
Okay.
Voilà. Voilà. Donc, dans le livre, en fait, il te demande de prendre soin de toi de telle manière que lorsque l'on va bien, inévitablement, on a beaucoup à donner aux autres. Comment se sentir heureux ?
C'est pas faux d'un côté. Hein.
En soi, c'est méga chiant. Mais par contre, si tu as du temps libre, tu ouvres le livre et tu peux faire. C'est bourré de petits exercices. C'est
alors,
exactement comme toi.
Vas-y.
Alors, citez des moments où vous oubliez de prendre en compte ce qui vit votre corps. Comment vous sentez-vous après cela ? À quel moment vous occupez-vous bien de votre corps ? Comment vous sentez-vous après cela ?
Et puis les dessins sont crado.
Les dessins sont vilains.
Sans crado.
Oh, génial. Ça, c'est le bon cadeau pour quelqu'un que t'aimes pas.
Ouais. Non, après, il y a des exercices. Alors, j'ai ouvert, je me suis dit, si t'as du temps et si t'as vraiment envie d'être bienveillant envers toi-même, tu peux faire le...
Cliquez sur bien-être.
Jouvence.
Non, jouvence.com. Voilà, non, ça m'a un petit peu... Je me suis bloquée dès le départ, en fait, je crois. Et la couleur, quand j'ai ouvert ce façon cahier mal fait, parce qu'ils ont voulu faire style... On a écrit sur le cahier, mais c'est même l'impression.
Bon, on vous le déconseille, celui-là. Là.
Elle n'est pas jolie, voilà.
Après, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui me l'avait commandé et qui n'est jamais venu le chercher.
Voilà.
Et je me retrouve avec ça sur les bras.
Et j'avais envie, au départ, comme tu me l'avais dit, Héloïse, je me suis dit, je vais faire croire que c'est fabuleux, que la personne regrette et que tu dises non.
Tu n'as pas pu, tu es trop honnête.
Donc, et si vous voulez acquérir un livre pas cher, il vous sera offert.
Si vous voulez faire des blagues à Héloïse.
Pas les éditions, là, l'ordinette.
Non, après,
vous pouvez le récupérer quand vous voulez.
Vous allez tous chez Héloïse, vous le commandez et vous n'allez jamais le chercher.
Héloïse, tu l'offres celui-là, non ?
Non, bah attends, tu rigoles, il coûte 7 balles.
Il est à combien ?
7 euros, je crois.
7 euros. Si quelqu'un répond par SMS à une petite question, par SMS ou sur Facebook à une petite question, je lui offre.
Après, c'est quand même un docteur en médecine, formatrice au CNV depuis 1995.
La CNV, c'est la communication non violente, quand même. Et c'est une façon, quand même, de dire à quelqu'un : mais tu es moche ? Non. Je trouve que ton physique ressemble à une époque. Tu vois, c'est une façon de dire les choses constructives.
J'aime pas beaucoup le regard que tu portes sur moi.
Tu parles de moi ?
Non, mais elle dit ça en me regardant. Est-ce que j'ai mon physique ? J'avais super gaffe à moi
Je te sentais critique envers la CNV. Et c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que cette auteure, Anne Van Steppen, là, elle peut faire des choses super. Je suis sûre que si elle écrivait... Au lieu de faire des petits exercices merdeux sur un livre, si elle l'écrivait sur un beau bouquin avec des bons exemples, et pourquoi je fais ça, et quelle importance il y aurait à écrire trois choses que je vais faire dans ma journée, trois choses que j'ai envie de faire dans ma journée.
Ça vend moins bien, peut-être.
Ça vend peut-être moins bien, mais là, je suis désolée, mais tu achètes ça, tu n'as plus envie d'acheter un autre cahier dans ce style-là.
Moi, je vous trouve difficile, hein, avec cette auteure.
Mais écoute, je te l'offre.
Non, j'ai pas le temps.
Je pense qu'elle est réellement calée sur son sujet. Mais,
on vous le déconseille.
Mais là.
Mais par contre, il est à 3,50€ ou alors à 7€. Ou alors gratuit si vous répondez à la.
Non, pour ça, j'ai trouvé un acquéreur potentiel sur ma gauche.
Eh ben, elle a fait 57 exercices. Même,
donc, non, mais t'as raison. On va comparer nos deux.
Tu vois, contrairement à toi, elle achète pas comme ça. Elle a fiché avant.
Je ne l'ai pas acheté. On me l'a proposé pour cette émission.
Ben voilà. C'est très bien.
Voilà.
Je ne sais pas qui c'est qui a choisi ce thème déjà, mais alors.
Vous me rappelez dès le début de l'émission, mais il y a des gens qui ont aimé leur livre.
C'est vrai.
Ah oui, non mais.
Non mais c'est un thème de rentrée, c'est bien.
Ouais. Oui, c'est bien.
Tu vois.
Oui, et on a eu deux bons livres déjà.
Déjà, ça va. Ouais.
Même deux et demi, on pourrait dire.
Oui, parce que moi, je vais l'acheter celui que t'as vendu là, Ludo.
Très bien.
Donc tu vois, c'est pas une émission pour rien.
Merci. Héloïse, on va laisser Popo terminer avec le livre de cette émission. En attendant, Héloïse, on te laisse présenter ton second ouvrage.
Alors, mon second ouvrage est une BD. Ça s'appelle Philo Comics. Donc, il y a trois auteurs, Thivet, Vermeer et Combo, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Donc le sous-titre de Philocomics, c'est 10 philosophes, 10 approches du bonheur. Donc c'est donc une BD dont le but est de nous expliquer une sélection de méthodes pour approcher le bonheur, des méthodes de 10 grands philosophes assez connus. Donc Platon, Épicure, Sénèque, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Bentham, le moins connu, Schopenhauer et Nietzsche. Donc souvent la philo, c'est un mot qui peut faire peur, c'est une pratique qui peut sembler assez inaccessible. Tous ces noms sont assez effrayants et pourtant, comme nous l'explique Frédéric Lenoir dans la préface de cet ouvrage, la philosophie, en fait, ce n'est rien d'autre que de se questionner sur le monde, se questionner sur nous-mêmes, s'étonner face à celui-ci et ne jamais rester sur ses acquis et sur des opinions préconçues. Donc tous les philosophes à travers l'histoire s'intéressent au progrès social, à la condition humaine et donc à la question du bonheur, forcément. Donc chacun des 10 philosophes ici est présenté avec son approche différente du concept de bonheur, un concept difficilement définissable. Et toutes ces approches sont passionnantes et sont relatées de manière très habile et humoristique. Je vois Valérie et Nico qui se bidonnent devant Schopenhauer en train de faire du yoga avec son caniche.
Je suis fan de Schopenhauer, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit là.
Alors, j'ai dû faire une sélection, même si j'ai aimé toutes les approches de ce livre. Je vais vous parler de Montaigne et de Schopenhauer, justement.
Ah, génial.
Voilà.
Juste avant, c'est sous forme de BD pour réussir à toucher un public jeune ou pas du tout ?
Oh non, enfin, franchement, ça peut être pour ados, pour adultes.
D'accord.
C'est juste la compréhension. En fait, c'est sous forme de BD pour être accessible au plus grand nombre,
je pense. D'accord. Alors, Montaigne.
Alors Montaigne, donc c'est un philosophe et un humaniste du XVIe siècle. Il nous a laissé comme trace écrite les Essais. C'est une œuvre monumentale de 800 pages. Et c'est une sorte en fait de journal de son quotidien où il relate ses rencontres, ses expériences, etc. Donc pour lui, le bonheur réside dans le fait de prendre sa vie comme une source inépuisable d'étonnement et d'expérience. Un art de vivre dans son monde et son époque avec les autres, avec autrui. Donc dans ses essais, il expérimente sa propre vie en notant ses observations de la nature de l'homme, les situations qu'il croise. Il compare toutes ses expériences, ses rencontres, en espérant y trouver des conclusions sur l'état heureux, sur l'état de bonheur. Alors bien sûr, il déteste les préjugés et les idées préconçues. Montaigne était très ouvert, il aimait beaucoup aider les autres. Donc en résumé, pour Montaigne, pour être heureux, il faut faire vraiment l'expérience de la vie. Il faut douter car nous ne sommes pas parfaits. Il faut partir découvrir le monde. Il faut lâcher prise. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal.
Ce sont plutôt des bons conseils.
Voilà, je trouve que c'est assez sensé. Donc maintenant, je vais passer à Schopenhauer, un philosophe plus moderne qui a vécu au 19e et il était donc allemand.
Qui a écrit le fabuleux « L'art d'avoir toujours raison ».
Voilà, tout à fait, merci Valérie, tu pourras nous en toucher un mot si tu veux.
On me l'a jeté, on m'a interdit de continuer à le lire.
donc pour Schopenhauer...
Prussien.
Les hommes sont voués à être malheureux, car on est sans cesse en train de désirer quelque chose, et une fois qu'on l'obtient, on s'ennuie, et on passe à un autre désir. Et du coup, on oscille entre le malheur et l'insatisfaction et l'ennui. Il trouve également que l'homme est fortement égocentré, sa vision du monde est limitée par sa propre existence, son propre point de vue, ce qui nous pousse à donner à nos désirs une dimension autre que ce qu'ils sont vraiment. Par exemple, nous apposons le concept grandiloquent d'amour sur un simple instinct animal et sexuel. Voilà.
Amour.
Donc en gros, on se prend la tête et à force de désirer le bonheur, on s'en éloigne fortement. Donc pour Schopenhauer, nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et nous détacher un petit peu de notre ego pour atteindre la voie de la sérénité. Donc en vrac, voici quelques pistes pour accéder donc à cette sérénité. Donc abandonner l'idée que le monde a un sens, accepter le fait que je fais partie d'un tout beaucoup plus grand que moi, laisser tomber les fausses consolations face à la mort, type religion, etc. Je profite du temps qui m'est imparti, je fais des choix et j'arrive à renoncer à certaines choses. Donc ensuite, Schopenhauer pratiquait la méditation et le yoga.
On y revient.
Après, info assez sympa et cocasse, il adorait son caniche qu'il avait appelé Atma. Atma qui veut dire l'âme du monde en sanskrit. Et donc, leur relation était très pure, selon lui, était une relation clairement intéressée et claire. Et donc, ça lui plaisait que...
Qu'y a-t-il ?
Tu es affreux, Ludovic.
Non, non, pas du tout.
Mais je sais pas, de moi ?
Non, 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 pas du tout. Je moque du caniche. Non, non.
Ouais, ouais, il faisait des...
Bref, bon, le caniche.
Des gestes un peu particuliers, quoi.
Bref, de toute façon, je vais conclure. Donc, tout ceci...
C'était très intéressant.
Non, non, mais prends ton temps.
Hein, non, 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 mais c'est fini. Tout ceci est absolument génial et on peut vraiment piocher à droite, à gauche, dans les différentes approches du bonheur. Sur Platon, alors, c'est le premier du livre.
Oui. Connais-toi toi-même et tu pourras être heureux.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Non, ça te revient pas.
Non, ça me revient pas. Désolée.
D'accord, non, non.
Street philosophy. Mm.
Après, voilà, il y a Pascal, par exemple. Pascal, c'est celui qui m'a le moins touché. C'est-à-dire que lui, pour Pascal, le bonheur, c'est seulement après la mort auprès de Dieu. Par exemple, on ne peut pas être heureux dans la vie. Mais c'est quand même une approche intéressante. Voilà. Même si je ne l'appliquerai pas dans ma vie.
Pensez.
Donc voilà, ce livre est super drôle et il donne à réfléchir. Et c'est un vrai coup de cœur.
Sympa dessus et puis. Et
ouais, moi sur les dessins.
Même les commentaires. Hein. Mmh. Les commentaires, ils sont truculents quand même.
Hein. Ah bon ?
Ouais, ouais, les commentaires. Oui, par exemple, t'as Schopenhauer qui se fait lécher par son chien et qui dit.
Le fameux caniche.
Atma.
Le fameux, le fameux caniche. Voilà. Et puis, je sais pas, il a une phrase, il fait ouais, ben on a le droit de se faire lécher par son caniche, un truc comme ça. Mmh. C'est ce qu'il met, quoi.
Voilà.
Non, commentaire.
Donc, oui, un commentaire comme s'il était vu par le lecteur.
C'est très, très accessible.
C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Mmh. Oui, et puis les dessins sont truculents, c'est sympa.
Ok, maison d'édition, super. C'est
Rue de Sèvres.
Rue de Sèvres.
Ouais, c'est un beau livre aussi. Hein.
C'est un beau livre aussi, ouais. Allez, bien joué, car il reste 15 minutes pour 15 présenter minutes. Le livre de cette émission, de ce thème voulu par Popo. Ce livre qui
son
est...
Choix.
Son choix.
Ah oui, non mais là, c'est en plus, ça reprend toutes nos idées, c'est la prophétie du cinquième règne.
Waouh. Oula.
Voilà, par Yann Laflèche.
Ce bon vieux Yann.
Yann, mais c'est un prénom breton.
Et oui, ça se déroule en Bretagne, vraiment chez moi, c'est-à-dire sur la côte costarmauricaine.
Au pays de la galette
costarmauricaine.
Ouais. C'est chez Morgan J aussi, au passage.
Donc voilà, un bandeau qu'on ne peut pas enlever puisqu'il est imprimé sur la couverture nous dit...
Ah non.
Après avoir lu ce roman, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Voilà.
Est-ce que tu peux ne plus le dire après avoir lu ce roman ?
Je ne sais pas ce que je n'étais pas... Voilà ce que je ne savais pas jusqu'à maintenant, mais...
Tu le sais maintenant.
Oui, maintenant je le sais. Je sais que...
Tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais pas.
Que Yann Laflèche est extrêmement spirituel, qu'il est, qu'il a une idée du monde très précise, qu'il a une mission dans le monde et qu'il n'est pas le seul. Voilà, le cinquième règne, c'est...
Ça commence à me plaire,
moi,
cette histoire.
Moi, je suis toute émoustillée.
T'es toute émoustillée ?
Ouais.
Allez. Le cinquième règne, c'est à peu près un cinquième de l'humanité. Donc, voilà. Donc, il y en a un parmi nous qui est responsable de sauver l'humanité. Voilà. Bon, parce que l'humanité...
C'est Valérie.
Moi, je votais, tu vois, peut-être pour Pauline, quand même.
Oui, remarque.
Ah oui, je me suis tout à fait...
Elle a tellement tout lu que je pense qu'elle peut tous nous sauver.
Voilà, donc l'être du cinquième règne, il doit devenir, là je cite, parce que je vais citer, parce qu'il faut se mettre dans le ton du bouquin un peu. Donc voilà, il doit devenir une fontaine de vie, des énergies divines sur la Terre. Mmh. Voilà. Mmh. Donc il doit...
C'est ésotérique, c'est quoi ?
C'est un peu ésotérique. Alors il y a j'y voyais une relation avec la religion. Mmh. Finalement, j'ai lu des interviews de Yann Laflèche, pas du tout, j'ai a priori complètement tort. Mmh. Le ressenti de la Terre, et puis voilà, une mission.
En même temps, Thor, c'est un dieu. Hein.
Bon, ouais. Ça concerne des métiers précis, c'est-à-dire ce sont les journalistes, les...
Ah, c'est moi.
Voilà, c'est toi.
Ah, mais c'est toi l'élu. J'ai une mission. Est-ce que ça parle de caniche ?
Non, il n'y a pas de caniche. Mais après, j'ai sauté des passages, peut-être qu'il apparaît.
Attends, mais j'ai pas compris, c'est quoi le cinquième règne?
Alors, le cinquième règne, nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des êtres du quatrième règne, c'est-à-dire.
C'est comme les colonnes.
En gros, on va disparaître, c'est comme les dinosaures.
Voilà, on est amené à disparaître. Donc, parce que de toute façon, on est trop matérialiste, on est trop tout, on est trop mauvais.
Donc, il n'y en a qu'un parmi nous qui va s'en sortir.
Voilà, mais qui peut aussi sauver les autres.
Et qui est journaliste.
S'il s'éveille, attends. C'est ces êtres du cinquième règne, ils sont cons, les autres.
D'accord.
Donc bon, voilà un peu l'idée du bouquin. Alors,
ils sauveront de quoi? D'une apocalypse?
Alors un genre d'apocalypse.
Des quatre autres cinquièmes. qui foutent la merde.
Bon, en même
comme
temps,
dans cette émission.
Et ça va se passer comment, notre fin du monde?
Ah, ça
fin,
c'est
fin du
ça a
cinquième.
Démarré, alors, là, on a eu un typhon.
Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a énormément de pages dans le livre. Où... Alors je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le livre, parce que c'est aussi très particulier.
J'ai le temps, encore minutes.
Ah oui, vas-y.
Il t'en reste plus que 12. Hein.
Donc on commence par rencontrer Erwan. Erwan qui est en train de se balader dans une forêt bretonne, évidemment près d'un dolmen. Bon, je voulais vous lire la description du dolmen, mais
Erwan
je vais
nu.
Oublier quand même.
Ah, yes. Erwan est nu, non?
Vous voulez que j'y aille?
Ah, allez. Oui, vas-y.
Allez. Okay, avec ton alors, dolmen.
Donc ce dolmen, il se dressait depuis des milliers d'années. C'était une masse grise, arrondie, couverte de mousse et de lichen, posée depuis l'éternité.
Valérie,
ça n'a pas du tout avec ce que je raconte. Hein.
Oh non, mais Valérie, s'il te plaît, hein, arrêtons un peu là.
C'est pas moi, c'est Monsieur Trottoir.
Non, mais c'est pas possible.
Non, je suis toute.
Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît?
Ah, non, je recommence pas.
Allez, recommence.
Non, là où j'en étais, le dolmen gris. Il s'approche du dolmen. Oui,
voilà.
Et donc, en m'approchant, je distinguais la pierre plate et allongée du dolmen comme une pointe de lance géante posée sur quelques rochers arrondis.
Ouais, après il fait un peu exprès. Hein.
Allez, je m'arrête.
Il fait vraiment tout pour.
Non mais voilà, c'est très bon. Ça se veut très très beau, très poétique.
C'est un peu lourdeau. Ouais.
Mais c'est joli.
Ah non, mais c'est non, c'est vraiment.
Oui, c'est joli, Valérie.
Voilà, donc on part. Donc voilà, on rencontre Erwan sous ce dolmen là, et face à lui va se trouver Lionel. Alors Lionel, j'ai d'abord cru que c'était un genre de druide.
Que font le Lionel et Erwan dans la forêt?
Sous un dolmen.
Figurez-vous qu'ils vont discuter.
Ah, ils vont discuter.
Ouais, ça commence toujours comme ça.
Ah ouais, mais ils vont discuter pendant 300 pages. Et puis ils vont tourner en rond sur le cinquième règne. Et
ils étaient d'accord déjà sur cette notion.
Ah non, Erwan, il y connaît rien du tout. Ah. C'est Lionel en fait qui a découvert Erwan et qui a tout de suite saisi que c'était un être du cinquième règne.
D'accord.
J'imagine que Erwan, c'est Yann la Flèche, hein, puisque elle a. Voilà, Lionel va donner une mission à Erwan.
Ah, il me le faut ce livre. Ah, il me plaît.
Enfin bon, c'est
quelle mission il lui donne?
Convertir les gens.
On le lira pas, allez, raconte.
Écrire un livre. Voilà. Non. Écrire un livre pour éveiller les gens, en fait.
Ah.
Voilà, donc il faut qu'on le lise tous.
Je pense qu'on pourra plus dire qu'on ne savait pas.
Ben voilà.
On était prévenus.
Est-ce que si le fait que tu nous l'aies raconté, on peut considérer que tu nous as convaincus et sauvés?
Je sais pas si je suis assez précise parce que en fait il faut expliquer beaucoup et très longuement et voilà, faut vraiment en reparler.
Les gars, c'est une théorie, c'est un roman.
Toi qui as lu des interviews, elle est intéressante la question de Nico. Est-ce qu'il y croit vraiment ou c'est romancé?
Il y a de la flèche.
Ah non,
flèche.
Je pense que j'ai lu dans l'interview que j'ai lu de lui, je pense qu'il considère qu'il y a une véritable mission, qu'il a vraiment rencontré, j'imagine. Cet homme là, ce Lionel, peut-être même qu'il habite près de chez moi.
peut-être même qu'il est de ta famille.
Peut-être.
Tu ne sais pas. Quels sont les exemples pour sauver ce monde ou comment faut-il se comporter
c'est pas du tout simple.
Bah ouais, alors,
j'ai envie de savoir.
C'est plus des grandes théories. Là, par exemple, les formes de vie dans l'univers n'ont pas la même intensité vibratoire. Donc il faut prendre en compte leur niveau énergétique.
Même moi, dans la journée, je n'ai pas la même intensité vibratoire, je te promets. Entre le lever et le coucher, rien à voir.
Voilà. Il y a des voix, là, voilà. Donc là, Erwan essaye de faire un lien avec le karma. Non, le karma, ce n'est pas exactement pareil. Et en fait, c'est... Non, c'est...
En fait, c'est toi. Soit je peux pas, c'est mais en fait, c'est soit t'es élu et tu as déjà les vibrations pour faire partie du cinquième règne.
Peut-être que je suis pas dans le cinquième règne et c'est pour ça que je comprends rien. En fait, que je
ne ressens rien. Tu peux pas changer, en fait. On peut pas changer.
T'as l'air d'avoir compris, mais.
Oui, mais si on n'a pas l'intensité vibratoire.
Oui, c'est très dur à retranscrire. Bah, je pense qu'il faut bien un bouquin de 300 pages.
Et est-ce que ça parle bien de ta Bretagne ou pas?
Comment ?
Ça parle bien de ta Bretagne, de ton coin de Bretagne ou...
Alors voilà, moi aussi j'ai été freinée dès le début, puisque il se donne rendez-vous sur une belle plage qui s'appelle les Rosaires, qui est donc tout près de Saint-Brieuc, là d'où je viens, qui est la plage que je déconseille à tous les touristes qui viennent se balader près de chez moi. Voilà. Il n'y a pas plus vilaine plage.
Il paraît qu'il y a des druides un peu chelous.
Hein, donc voilà, en plus il était mal parti, quoi.
Ouais.
Voilà.
Eh ben, mince alors.
Donc, ouais. Mais tu vois, là, tu peux avoir des citations. Quoi
non, mais c'est.
Pour raconter
c'est,
des choses marrantes après ça.
Tout à fait, oui.
Ouais.
Ça te turlupine.
Moi, ça me. Oui, plus turlupine. Mais c'est.
Valérie, tu avais dit pas de calembour en 2017.
Mal placé dans la forêt sous un dolmen.
Bah, excuse-moi, depuis tout à l'heure, c'est qui a un coupe son micro et envoie des. Attends.
Bah, il faut savoir que c'est chez J'ai lu collection Aventures Secrètes, qui est une collection qui marche du feu de Dieu. Vraiment, ça fait partie des meilleures ventes, notamment un livre qui s'appelle, peut-être que vous connaissez, La Prophétie des Andes, oui. Dans cette collection-là. Voilà.
D'accord. Après avoir occupé des postes de haut niveau dans la finance à Paris, Yann Laflèche est installé aujourd'hui en Bretagne.
Ouais, donc, c'est un burn-out, quoi.
Ouais, c'est ça. Il a fait un gros burn-out. Ok, Yann, on te salue.
Et tu penses alors que quand arrivera le moment de l'apocalypse, tu peux passer dans le cinquième règne ou pas, Pauline?
Non, j'ai pas tout saisi. Je crois que j'ai pas les clés en moi.
Mince.
Ouais. Ouais, on va faire un tour à la plage du Rosaire, peut-être.
Oui. C'est peut-être pour ça que tu as cru que c'était religieux aussi, le nom de la plage.
En plus, c'est écrit extrêmement petit.
Hein. Tout petit.
Tout petit, 300 pages. En gros, t'en as 600. Hein.
Non, j'ai sauté beaucoup de passages. Mais okay. Tu peux sauter des passages. Tu toujours au même point. Ouais. C'est un petit côté, comment on appelle ces séries.
Ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours
sous le feu de l'amour.
D'accord.
Oui, tu peux pas 10 épisodes.
Elle a sauté Le Soleil et la Lune, Science et Conscience, Les Robes de la Mer, La Traversée du Règne Humain, Le Livre de la Connaissance. Entre autres. Ouais. Très beau titre. Hein. La prophétie du cinquième règne. Les difficultés du cinquième règne. Le retour des guides.
Peut-être qu'il faut que tu lises d'autres livres sur le cinquième règne pour bien t'en imprégner et nous sauver.
Peut-être d'essayer de comprendre le premier, le deuxième et le troisième règne.
Non, il explique quatrième. Le quatrième, il ne revient pas sur trop
de choses. Et pourquoi il considère qu'on est au quatrième règne d'ailleurs?
J'ai peut-être loupé et j'ai peut-être passé la partie où il explique les 1, 2, 3.
Le troisième Reich, mais.
Ouais,
mais
je ne suis pas sûre que ce soit.
Le troisième Reich, c'est le quatrième règne.
Parce qu'il y a la cinquième colonne aussi là, qui marche bien en ce moment. Donc, le règne humain serait donc double. Il recouvrirait les quatrième et cinquième règnes. Oui, et je peux te dire qu'il y a un écart considérable entre les deux. Après, voilà, c'est incompréhensible. Allez, Yann, on te salue. Yann Laflèche, si tu nous écoutes, on serait ravis de te recevoir dans cette émission pour que tu nous expliques un peu mieux ton livre.
Donc, Pauline, on est d'accord, on peut revenir au livre qui traite de la Shoah, des massacres, des génocides.
Mais bizarrement, ça me parle plus.
Eh ben voilà, on y arrive, la boucle est bouclée.
Alors, peut-être dans 2 semaines avec la rentrée littéraire. Est-ce qu'elle a été prolifique cette année, cette
588 romans.
Et est-ce qu'elle est de qualité?
Ouais, ah oui.
Oui. Allez, donne-nous des exemples.
Moi, j'ai lu des choses très chouettes.
Voilà. Par exemple,
Le jour d'avant de Sœur Chalandon, dont je vais vous parler la prochaine fois. L'histoire de mes dents, qui est très chouette, un très chouette roman aussi, très drôle. Voilà, voilà.
Super.
Entre autres.
Et est-ce que Yann Laflèche a sorti un roman pour sa propre littéraire?
Le huitième règne.
Qui est animal.
Faute d'avoir loupé le cinquième.
Allez, parfait, merci beaucoup. Dans 2 semaines, on vous retrouve et Nico nous présentera des livres.
Exactement.
Voilà, super. Parce que là, il est au courant de la date. Hein. Tout le monde est témoin. C'est d'accord. Oui. Parfait.
C'est
dans
quand,
2 semaines.
C'est dans la semaine prochaine.
Oui,
dans 2 semaines.
C'est ça. On ne peut pas, Valérie,
dans
mange des pita
de fraki. Ce sera le combien alors?
Ça sera le.
21.
Dans 15 jours.
21.
Ça sera le 21. Allez, ça me va le 21. C'est parfait.
Ça te va?
Allez, super, bonne rentrée à tous et
à
lisez des livres.
À bientôt.
Bonne lecture.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style.
frais, sinon pas style, et il m'intéresse pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.